Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Mais c'est du podcast, du podcast.
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Bonjour, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast, dans ce nouvel épisode de notre Podcaston 2024 consacré à la Fondation des Amis de l'Atelier. Le Podcaston, c'est un événement caritatif dans le milieu du podcast, durant lequel, pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Si vous avez écouté les épisodes précédents, mon invité ne vous sera pas étrangère puisque je suis à nouveau accompagné de Sandra Gardel, de la Fondation des Amis de l'Atelier. Salut Sandra.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui Sandra?
Bah écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être là.
Eh ben super, moi aussi c'est un plaisir de t'avoir à notre micro toute cette semaine. Pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément écouté les épisodes précédents et qui prendraient cette série de notre Podcaston 2024 en cours, est-ce que tu pourrais nous redire un petit mot sur toi et la Fondation ?
Avec plaisir. Donc, je m'appelle Sandra Gardel, je suis directrice de la communication et de la collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. C'est une très belle fondation qui accompagne 4000 personnes, enfants et adultes, en situation de handicap mental, psychique et avec autisme, dans ses 100 établissements, services et dispositifs, et ce, depuis plus de 60 ans.
Ça marche. Alors, aujourd'hui, Sandra, tu souhaitais nous parler de handicap.
Oui, tout à fait. Eh bien, nous intervenons dans le champ du handicap mental, du handicap psychique et des troubles du spectre autistique. Alors, quand on parle de handicap, c'est très large. Il y a le handicap visible et invisible. Il y a aussi des handicaps qui sont liés à des problèmes de santé. Par exemple, le diabète est considéré dans le champ du handicap. Nous, on travaille vraiment à l'accompagnement des personnes dans leur, qui ont des handicaps mentaux, psychiques ou avec autisme, dans l'ensemble des pans de la vie. Vie sociale, vie quotidienne, vie professionnelle, logement, etc. Mais il faut savoir que si on peut parler de chiffres du handicap, tu vas voir, les études, elles varient en fonction de la définition exacte du handicap, de ce qu'on met dedans. Mais globalement, on peut donner quelques chiffres. En gros, 10% de la population mondiale est touchée par le handicap. C'est beaucoup. 3,5 millions de personnes en France sont en situation de handicap, dont 700 000 en situation de handicap mental. Et en gros, même si on ne parle pas de handicap, mais même de maladie psychique par exemple, une personne sur quatre sera un jour touchée par la maladie psychique en France. Un autre chiffre qui est un peu alarmant et qui peut nous sensibiliser tous, parce que tu le répétais au départ, mais le handicap, c'est l'affaire de chacun et surtout l'affaire de tous. Une naissance sur 100 est une naissance d'enfant autiste. Et cela, ça implique quoi? Ça implique un certain nombre d'aidants familiaux. En France, il y a 9 millions d'aidants. C'est énorme.
Au sein de la Fondation les Amis de l'Atelier, vous avez une âme de recherche et d'innovation, c'est des sujets très importants pour vous. Je voulais qu'on parle de sous aujourd'hui, d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre et que ces projets, ils ont besoin d'être financés. Les recherches, l'innovation a besoin d'argent pour être financée. C'est aussi pour ça qu'on fait cette série de podcasts aujourd'hui. La Fondation des Amis de l'Atelier, comme la majorité des acteurs du handicap, vous êtes une association à but non lucratif, je crois.
Oui, voilà. Alors, on est même une fondation. Ce qui est un peu comme une association, mais en fait, une association, c'est une association de personnes et une fondation, c'est une association de fonds et on est reconnu d'utilité publique. Mais effectivement, au départ, c'est une association loi 1901.
Bon, très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment est financée la fondation, pardon, hein. Voilà, je m'égare. oui, est-ce que tu peux nous expliquer et nous raconter les modes de financement de la fondation?
Dans le secteur médico-social et principalement là, en ce qui nous concerne dans le secteur du handicap, nous sommes financés à 98% par les ARS et les conseils départementaux pour ouvrir et accueillir dans nos établissements et services les personnes en situation de handicap. Donc, je dirais que sur la grosse partie de notre activité, nous sommes financés. Par contre, sur le reste, c'est-à-dire sur l'accompagnement plus précis sur la mobilité, sur le sport, sur l'éveil multisensoriel, sur les ateliers, sur des projets citoyenneté, sur certaines rénovations ou transformations d'établissements. Nous ne sommes pas financés et nous devons trouver des fonds pour financer ces projets. Tu le soulignais tout à l'heure, l'innovation fait partie de l'ADN de la Fondation et nous avons besoin de trouver des fonds pour financer des projets, qu'ils soient autour de la mobilité, du sport, de l'éveil multisensoriel, de la citoyenneté ou même parfois la rénovation, la transformation de certains de nos établissements pour créer des ateliers. En gros, pour optimiser en fonction des besoins des personnes que nous accompagnons sur tous les pans de leur vie, c'est-à-dire leur vie sociale, leur vie quotidienne, leur vie professionnelle, leur logement. Voilà, donc nous avons besoin aujourd'hui, effectivement, de trouver des fonds qui ne soient pas des fonds déjà donnés par les ARS ou les conseils départementaux.
D'accord, et alors de quel type de fonds? Comment on peut vous apporter des fonds, hormis un simple don? Évidemment, aujourd'hui, on est sur le podcaston 2024 et je le rappelle, l'objectif du podcaston, c'est de solliciter la générosité des auditeurs. Mais est-ce que c'est le seul vecteur de financement que vous avez sur la Fondation?
Alors là, je vais m'adresser aux auditeurs du podcaston. En fait, vous pouvez nous soutenir sous deux aspects. À titre personnel, vous pouvez faire effectivement des dons. Et là, je vous invite à aller sur notre site www.fondation-amidelatelier.org et également sur le site du podcaston. Et si vous êtes, on va dire, plus avec votre casquette de professionnel, vous pouvez tout à fait vous tourner vers votre entreprise pour savoir, en gros, quels sont les axes et les projets soutenus par votre entreprise pour du mécénat. En fait, le mécénat, c'est un axe important pour lever des fonds sur des projets en particulier. Et nous en discutions tout à l'heure, Sébastien. En fait, il y a différentes formes de mécénat. Il y a le mécénat financier, le mécénat en nature, le mécénat de compétences. Et puis, il y a différents modes opératoires pour avoir du mécénat. C'est-à-dire que nous, déjà, c'est de faire connaître notre fondation auprès des entreprises pour qu'elles nous connaissent, pour qu'elles puissent comprendre quelles sont nos missions et ce que nous faisons concrètement. C'est aussi leur faire part de nos projets. Et puis, si les entreprises ont envie de nous soutenir ou alors si c'est bien dans leurs axes de mécénat, là, alors, commence un travail en commun, de collaboration, voire de réponse à appel à projet. Et globalement, depuis 5 ans que nous avons commencé cette démarche de mécénat, nous avons des liens forts avec les mécènes avec lesquels nous travaillons parce que c'est vraiment un travail de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un chèque en blanc que nous signent les mécènes, mais bien un projet coporté et surtout où nous rendons des comptes, où nous expliquons, où nous invitons aussi nos mécènes, même avant qu'ils deviennent mécènes, à venir dans nos établissements et services pour comprendre ce que l'on fait. Et ça, c'est un appel, on va dire, plus général. Nos portes sont relativement ouvertes. Je dis relativement parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes de tous les établissements quand c'est des lieux de vie. Mais sachez, et ça nous le faisons avec beaucoup de journalistes, en fait, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de l'accompagnement que nous proposons. Et l'idée, c'est de faire connaître qui on est, ce qu'on fait et comment on le fait. Donc ça, c'est, je dirais, sur les dons grand public et le mécénat, ce sont des axes forts et des moyens de lever des fonds, on va dire, assez classiques, somme toute, mais assez récents dans le secteur médico-social. Et puis, il y a un troisième axe, et là, je fais encore appel à votre casquette, chers auditeurs de professionnels, c'est la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage, toute entreprise doit la payer. Mais vous avez le don, le super pouvoir de l'orienter et de pouvoir le flécher sur le handicap, la cause du handicap. Il se trouve que nous avons 8 ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui est 2 IME, Instituts médico-éducatifs pour le secteur enfance, qui peuvent bénéficier de la collecte de cette taxe d'apprentissage. Donc si demain, vous, en tant que salarié, patron, libéral, vous payez la taxe d'apprentissage ou vous connaissez la personne qui la paye, vous avez le moyen d'aller sur le site Soltea à partir du mois de mai pour rechercher nos différents ESAT et pouvoir affecter votre taxe d'apprentissage. Si vous avez une question, un souci, vous pouvez aussi nous contacter et nous envoyer un petit mail sur l'adresse tax@amidelatelier.org, fondation-amidelatelier.org, et nous vous aiderons à cela. Mais voilà, c'est assez simple, c'est de l'information, c'est juste de la demande, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et nous, ça nous permettra de payer des ateliers, de la formation, du matériel informatique, des permis de conduire, du matériel pédagogique etc., etc., pour nos travailleurs des AT et pour les enfants que nous accompagnons en IME.
D'accord, merci Sandra. Donc, en fait, si je comprends bien, chaque entreprise, les professionnels libéraux, payent une taxe d'apprentissage. Ils ont la possibilité ou pas de la flécher sur, pour une cause ou une structure. S'ils ne le font pas, il se passe quoi avec cette taxe d'apprentissage ?
La taxe d'apprentissage, si elle n'est pas fléchée, va être collectée dans un pot commun et redistribuée ensuite en fonction du bon vouloir, je dirais, et des politiques en cours. Voilà. Alors c'est même au-delà de... Tu parlais de flécher sur une cause, en fait, c'est vraiment flécher sur des organismes formateurs. Et dans la cause du handicap, je dirais que ce sont principalement les ESAT et les IME qui sont bénéficiaires.
Ok, alors pour reformuler Sandra, si j'ai bien compris, la taxe d'apprentissage, chaque entreprise la paye quoi qu'il arrive. Et en fait, le fait d'aller la flécher vers une structure comme un ESAT de la Fondation des Amis de l'Atelier ou un IME, eh bien, c'est finalement faire une bonne cause et permettre à une structure comme la vôtre de pouvoir développer des projets pour accompagner encore mieux les personnes en situation de handicap. Et ça ne coûte absolument rien à l'entreprise, si ce n'est que d'aller sur un site internet et d'indiquer son souhait d'affecter leur taxe d'apprentissage.
Exactement. En gros, on donne la possibilité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'avoir une baguette magique pour donner du sens à leur taxe d'apprentissage.
On ne pouvait pas dire mieux. Alors, ce qu'on vous propose maintenant avec Sandra, c'est d'écouter deux capsules sonores sur laquelle deux directrices de la fondation vont nous partager la manière dont elles ont financé des projets de leur établissement au travers le mécénat. Alors pour la première capsule, on entendra Sabine Lucot, qui est directrice de la plateforme Insertion et Emploi, qui va nous parler de son projet de parcours inclusif. Et puis sur la deuxième capsule, nous entendrons Béatrice Ouambagé-Georget, qui est directrice du foyer d'hébergement et du CAJ, le centre d'accueil de jour Les Robinson, et qui elle nous parlera d'un projet de parcours sport et santé. Sabine et Béatrice vont tout nous expliquer dans ces deux petites capsules sonores. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot, toi, Sandra, sur ces projets ?
Oui, ce sont deux projets ambitieux qui ont pu voir le jour et qui sont en cours grâce au mécénat. Le premier projet, c'est le projet de parcours inclusif. C'est un projet qui vise à impulser une nouvelle dynamique d'inclusion innovante en proposant un panel d'ateliers et de remobilisation dans un espace dédié. Donc c'est Sabine et son équipe, avec la plateforme Insertion et Emploi, qui ont pensé ce panel d'ateliers sur différentes thématiques. La confiance en soi, la socialisation, le bien-être et la montée en compétences. Et typiquement, ce genre d'atelier, qui peut être même un atelier, on va dire, au-delà même de travailler le projet professionnel, plutôt de création d'autonomie, de bien-être et même presque de développement personnel, je dirais, pour les personnes accompagnées, ne pouvait être financé que par des fonds privés. Sabine va vous expliquer en fait la démarche, bien sûr, de création de ce projet, mais surtout comment nous avons œuvré avec les équipes de Sabine pour mettre en place un financement à travers du mécénat de différents mécènes. Donc ça, c'est un premier projet qui a été vraiment très, très riche. Et ensuite, le projet de Béatrice, c'est un projet, en fait, on va dire, de transformation de l'établissement pour favoriser le parcours sport-santé. Donc, il y a plusieurs phases, plusieurs parties à ce projet, avec un réaménagement, une transformation en salle de sport de l'une de salles qui était en sous-sol, qui est toujours en sous-sol, au foyer, mais avec une possibilité justement de pouvoir créer un espace avec des équipements sportifs pour favoriser le sport des résidents, et également un genre de parcours en plein air qui complète d'ailleurs une zone ruche, parce qu'ils ont des ruches là-bas. En fait, en gros, c'est quoi ? C'est de pouvoir donner la possibilité, l'envie, la motivation aux résidents de pouvoir augmenter leur activité physique, que ce soit en intérieur ou en extérieur. L'objectif est également de faire sortir les résidents dehors et d'utiliser l'environnement naturel comme support physique dans son parcours sport santé. Enfin, ce sont bien Sabine et Béatrice qui vous en parleront le mieux.
Bonjour, je m'appelle Sabine Lucot. Je suis directrice de la plateforme Insertion et Emploi. Notre mission au sein de la plateforme Insertion et Emploi, c'est d'accompagner des personnes qui souffrent de troubles psychiques vers et dans l'emploi. Donc on peut à la fois les accompagner à la recherche d'un emploi, mais également aider des salariés d'entreprises en difficulté sur leur poste. Et notre seconde mission, c'est d'accompagner également les entreprises et les employeurs dans le recrutement de personnes en situation de handicap, mais également dans l'accompagnement en maintien en emploi des salariés en difficulté. Nous accompagnons aujourd'hui 240 personnes sur 3 départements d'Île-de-France, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Et nous avons sur cette population à peu près 60% de personnes qui sont en emploi et que nous accompagnons au quotidien dans leur parcours professionnel. La force du dispositif que nous portons sur les 3 départements, c'est justement l'accompagnement tripartite à la fois du salarié, de l'employeur, du tuteur ou du manager en entreprise pour co-construire la collaboration et faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans cette collaboration. Donc nous accompagnons les entreprises dans leur processus de recrutement, mais également sur les aménagements de postes nécessaires à la personne et également dans l'évolution de la carrière professionnelle de la personne au sein de l'entreprise. À l'arrivée de la pandémie et lors du premier confinement, notre première préoccupation a été de maintenir le lien avec les personnes que nous accompagnons et de les garder mobilisées dans une dynamique positive et constructive. Il faut savoir que les personnes que nous accompagnons, qui sont en recherche d'emploi, sont très désocialisées. Donc nous avons réfléchi à des actions qui pourraient mobiliser et maintenir le lien avec nos bénéficiaires et profiter de cette période particulière pour les aider à développer leur employabilité. Et dans le public que nous accompagnons, il y a 4, je dirais, axes sur lesquels nous souhaitons travailler avec les personnes. C'est leur mobilité, leur autonomie, leur confiance en eux et puis la partie gestion des émotions, du stress. Et donc, nous avons construit un parcours inclusif qui est un panel d'ateliers pour développer son autonomie. Donc, nous avons par exemple imaginé des ateliers informatique pour apprendre à gérer une boîte mail, des ateliers de mobilité, participer à des sorties culturelles en organisant le trajet, les horaires, la date, la planification. L'axe confiance en soi, on a imaginé donc des ateliers basés sur une approche de la sophrologie ou de la relaxation pour apprendre à gérer ses émotions et à prendre confiance en soi. On a imaginé également des ateliers de relooking, on a imaginé des ateliers de théâtre, tout ça avec l'objectif vraiment de développer l'employabilité, de se servir de cette période un peu particulière pour vraiment développer des compétences savoir-être pour augmenter leurs chances d'opportunités professionnelles. Nous avons donc construit tout un parcours d'ateliers, donc de gestion des émotions, d'informatique, d'image de soi, de sport, de théâtre, de nutrition, de sorties culturelles. Seulement, nous n'avions pas de budget pour financer ce parcours et ces ateliers. Et c'est ainsi que nous nous sommes tournés vers le mécénat, tout simplement. Avec l'aide de notre responsable mécénat au sein de la Fondation des Amis de l'Atelier, nous avons tout d'abord écrit le projet avec des étapes, un rétro-planning, un budget qui nous a permis ensuite de candidater auprès de fondations, de structures, d'entreprises pour faire appel donc au mécénat. Et c'est ainsi que nous avons rencontré 3 mécènes qui ont bien voulu nous accompagner sur ce projet. Malakoff Humanis, Transdev et la Caisse d'Épargne qui ont adhéré de suite à ce projet et ont participé donc à son financement. Donc après avoir construit ce projet avec notre responsable mécénat, nous avons candidaté auprès de fondations, donc Malakoff, Humanis et la fondation Transdev. Nous avons tout d'abord fourni un dossier étayé avec un budget prévisionnel, avec des actions et des outils d'évaluation aussi pour mesurer l'impact social et à vocation également professionnelle. Après avoir été retenus, nous avons dû soutenir auprès des commissions d'attribution notre dossier et nous avons pu répondre donc aux différentes questions, interrogations des mécènes. Et après l'attribution donc de la subvention de la part des mécènes, nous avons régulièrement réalisé des points, des soutenances, pour leur rendre compte de l'impact et des bénéfices du parcours et des différents ateliers sur les bénéficiaires. Ce qui est formidable dans ce mécénat, c'est vraiment d'avoir co-construit avec le mécène le parcours. Puisque au-delà du financement, le mécène demande vraiment une analyse poussée de l'impact du projet. Et nous, ça nous a quelque part obligés au démarrage de construire des outils d'évaluation pour pouvoir réaliser des statistiques. Et ça nous a permis vraiment de mesurer tous les bénéfices pour les personnes que nous accompagnons. Donc, chose qu'on n'aurions peut-être pas réalisée au démarrage. Autre intérêt de travailler avec un mécène, c'est effectivement d'avoir un regard extérieur sur notre activité, nous obliger aussi quelque part à nous remettre en question et d'avoir une expertise complètement extérieur et de l'entreprise aussi, puisque avant tout, un mécène, c'est aussi une entreprise, une administration, peu importe, mais un regard extérieur de professionnel. Bien sûr, pour les mécènes également, il y a des bénéfices et un véritable impact sur le collectif de travail. On constate qu'une entreprise qui s'engage sur des actions à forte valeur ajoutée, sur la RSE ou sur le handicap, va permettre vraiment au collectif de travail à se sentir plus à l'aise pour dévoiler une situation de handicap ou des difficultés rencontrées dans le poste ou dans sa carrière professionnelle. Il est certain que de prime abord, le mécénat peut faire peur. C'est vrai que cela peut sembler être un exercice complexe et difficile, mais c'est l'opportunité justement de bien poser ses idées, de modéliser un concept, de créer des outils. Et puis surtout, on n'est pas seul. Nous avons été accompagnés par la responsable mécénat au sein de la fondation qui nous a énormément aidés. Et puis, c'est toujours l'opportunité de développer des compétences et de se remettre en question et de mettre en lumière aussi peut-être des axes de travail et de progrès que nous pouvions avoir. Donc, je dirais que c'est pas simple de prime abord, mais c'est une formidable expérience qui nous invite à nous re-questionner sur nos pratiques, notre façon de travailler, de nous organiser. Et pour nous, en tout cas, ça a été l'opportunité de nous structurer, de nous outiller et surtout d'évaluer l'impact de nos actions de manière générale, puisque nous avons repris des outils d'évaluation pour nos accompagnements au quotidien et puis même sur la trame du projet. Ça a inspiré de nouveaux projets. Donc vraiment, j'inviterais effectivement tout le monde à se lancer dans le mécénat. Avant tout, c'est aussi des rencontres qui permettent des échanges très riches et puis surtout avec des prismes différents, des professionnels de secteurs et d'environnements très différents qui nous obligent à nous remettre en question et surtout à nous mettre à jour sur les différents secteurs d'activité puisque nous accompagnons dans l'insertion professionnelle. Donc il est essentiel pour nous d'être au fait de l'évolution de l'entreprise aujourd'hui et des différents bassins d'emploi et difficultés des entreprises et des employeurs, aussi bien à recruter qu'à fédérer un collectif de travail. Donc je ne peux qu'encourager, même si effectivement ça demande de la réflexion, de l'organisation, de la modélisation, un peu d'idées, mais c'est que des bénéfices aussi bien pour les équipes, mais également et surtout pour les personnes que nous accompagnons. Ça a été vraiment une formidable aventure et beaucoup de rencontres. Grâce à ce mécénat et à la mise en œuvre de ce projet et de ces différents ateliers, nous avons de nombreux bénéficiaires qui ont pu accéder à un emploi. Pour mon équipe, ça a été une formidable expérience également qui a reposé sur deux axes. Hein, la réactivité, parce qu'il fallait faire vite. Le contexte était très particulier et l'enjeu pour nous était vraiment de garder mobiliser les personnes qu'on accompagnait. Donc il y avait urgence de mettre en place ce projet. Donc premier axe, c'était d'être très réactif et d'être dans une temporalité plus proche de l'entreprise. Et puis le deuxième axe, c'était de faire preuve de créativité et de responsabilisation. Et ce sont deux axes qui constituent aujourd'hui notre ADN au sein du service, où on est très réactif et très créatif. Et ça permet à mon équipe de jamais s'ennuyer et de toujours créer et construire leur accompagnement sur mesure, en trouvant des solutions sur mesure. On dit souvent qu'on fait du cousu-main, aussi bien pour les personnes qu'on accompagne que pour les entreprises, et de répondre parfaitement aux besoins et aux attendus des personnes et des entreprises que l'on accompagne.
Bonjour, je m'appelle Béatrice Ouambagé-Georgé, je suis la directrice du foyer Les Robinsons et du CAJ Les Robinsons. Alors, le foyer Les Robinsons et le CAJ Les Robinsons, ce sont deux établissements de la Fondation. Les deux se trouvent au Plessis Robinson et accueillent des personnes adultes en situation de handicap mental, psychique et quelques personnes qui sont autistes. Le foyer est un lieu d'hébergement. Bientôt, il sera un foyer de vie. Aujourd'hui, c'est un foyer d'hébergement. Et le centre d'accueil de jour, comme son nom l'indique, c'est un centre qui accueille des personnes en journée, du lundi au vendredi, pour faire les activités qui sont des activités support d'autonomie, d'inclusion, de prévention, de loisirs. Et ils sont là du lundi au vendredi. Alors, le projet pour lequel on a obtenu un mécène qui nous a aidé à son financement, c'est un projet qui s'appelle le Parcours Sport Santé. C'est un projet qui s'inscrit dans le projet stratégique de la Fondation, mais pas que. Il s'inscrit également dans le projet d'établissement qui va de 2020 à 2025, au même titre que l'inclusion sociale, l'autodétermination, la prévention santé est un incontournable dans notre projet d'établissement et la prévention par le sport est un élément important dans notre projet. Donc, par ce projet, nous voulons mettre en place un parcours sport-santé qui part de l'intérieur vers l'extérieur, où on va créer des espaces de fitness intérieur, mais aussi de fitness extérieur, en utilisant, en mettant bien sûr les équipements nécessaires pour faire du sport, mais aussi en utilisant tout l'environnement naturel pour faire les exercices et l'activité physique. Alors, ce que nous voulons par ce projet, c'est surtout inscrire le sport dans les habitudes de vie des résidents, mais également dans les habitudes de vie des salariés, parce que, comme tout le monde sait, le sport participe au bien-être et au maintien de, pas seulement le maintien de la santé, mais le maintien de la bonne santé. Santé physique, mais aussi santé psychique, mentale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui se sert des éléments existants dans notre environnement. Ben, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons un espace que nous nommons aujourd'hui espace atelier, qui est un lieu qui aujourd'hui nous sert de débarras. Clairement, il ne nous sert pas à grand-chose. On va le transformer en une salle de sport dans laquelle on va venir installer tous les équipements sportifs que l'on connaît, les vélos elliptiques, les rameurs, les tapis pour courir, tout ce qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle salle de sport. On va essayer de le mettre dans notre salle de manière à ce que et les résidents et les salariés ils aient un espace de proximité qui fait que qu'il pleuve, qu'il vente, on va pouvoir faire de manière régulière l'activité physique sur l'établissement. Donc là, on part de cet espace atelier qui est au sous-sol de notre foyer. On va se diriger vers une petite salle qui est au rez-de-jardin sur le foyer, mais qui donne sur le CAJ. Cette petite salle, on a déjà commencé et on va continuer à l'aménager en espace de bien-être, bien-être et relaxation. Et lorsqu'on quitte cette petite salle, on va directement dans la cour du CAJ où aujourd'hui on a une espèce de panier de basket qui nous sert plus de déco qu'autre chose. Et là, on va venir transformer cet espace-là en vrai mini terrain de basket, ce qui fait que quand les résidents sont en pause avec leurs éducateurs, ils peuvent s'essayer à jouer du basket, mais aussi à aller sur des équipements qu'on va installer, qui sont des équipements de mobilisation, de remobilisation, de renforcement, ce qui fait que n'importe quel résident avec n'importe quelle mobilité, avec n'importe quel niveau en activité physique, il va pouvoir faire quelque chose. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans la salle de l'atelier, on va également y aménager une salle de danse Zumba, qui fait que celui qui ne veut pas aller utiliser les appareils peut aller avec d'autres faire une petite séance de danse de Zumba. C'est vraiment, on essaie d'amener une diversité et d'équipements et de possibilités pour que chacun, selon son niveau, chacun selon ses envies, ses appétences, chacun puisse trouver quelque chose qui lui plaît, ce qui va nous permettre de maintenir cette régularité. Alors, on a quitté la cour du CAJ avec le mini-terrain, avec deux appareils de mobilisation, la roue Taichi et autres équipements. On va aller dans l'espace ruche. Pourquoi l'espace ruche? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un espace où il y a des ruches, où on fait du miel. Le miel du Robinson, c'est aussi une curiosité à voir. Les personnes peuvent aller courir jusqu'aux ruches parce qu'il y a des jolis escaliers qu'on va remettre aux normes pour permettre aux plus sportifs d'y aller en courant, d'y descendre ou d'y remonter. Et là, il y a des bancs qu'utilisent aujourd'hui plus les personnes de l'ESAT, les moniteurs et les travailleurs de l'ESAT. Ils pourront également, avec ces bancs, on va y installer des pédales, ce qui fait qu'on a juste à s'asseoir sur le banc pour, avec les pédales, faire une petite activité. Et puis, on va y installer d'autres appareils de fitness. Et une fois qu'on a terminé aux ruches, on continue le parcours. On va aller du côté du jardin des senteurs où tout au fond, on va aller trouver le vélo elliptique, le twister et pas mal d'autres appareils y seront installés. Ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, une diversité d'appareils, une diversité de possibilités qui fait que, en fait, il n'y aura plus de prétexte de ne pas faire l'activité physique sur l'établissement. Parce que chacun va pouvoir trouver ce qui lui plaît, ce qu'il aime faire. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on veut avec ce projet amener les résidents à être les experts de ce parcours-là, les experts de ces appareils, et ce qui fait que quand quelqu'un viendra pour la première fois essayer un appareil, il peut faire appel à l'expertise du résident pour lui montrer. Ça aussi, c'est quand même c'est pas rien parce que ça positionne le résident différemment, d'une position de celui qui est généralement aidé, celui qui est accompagné, il va être dans une position de celui qui accompagne et de celui qui aide l'autre. Et ça, c'est pas rien. Comme je le disais tout au début, ce projet, il entre d'abord dans l'axe sport-santé de la Fondation, mais aussi dans notre projet d'établissement qui met au même titre que l'inclusion sociale. Il veut faire la prévention un des piliers de notre accompagnement. Alors, ce projet, c'est un projet qu'on a depuis très très longtemps, un projet qui nous tient à cœur, qu'on a essayé de mettre en place par les petits moyens dont on disposait. Je vous disais tout à l'heure qu'on est un établissement sportif parce que par tous les moyens, on essaie de faire du sport comme on peut. Mais pour pouvoir mettre en place ce projet dans les bonnes conditions, en toute sécurité, dans le respect des normes, on a fait appel aux mécènes. On a pu avoir le financement d'un gros mécène, Malakoff Humanis, mais aussi des dons des particuliers à qui on a parlé du projet. Et c'est clairement grâce à ces mécènes-là qu'on va pouvoir le mettre en place vraiment dans des conditions les plus optimales. La rencontre avec Malakoff Humanis s'est faite grâce aux liens qui sont noués puis fidélisés d'année en année par des projets qu'on leur présente, que la Fondation leur présente, des projets qui sont souvent en co-construction avec eux, grâce aux liens de confiance du coup qui sont bâtis entre la Fondation Malakoff Humanis et la Fondation des Amis de l'Atelier, qui permettent aux porteurs de projets comme nous de pouvoir les faire financer par par cette fondation parce qu'on est animé par les valeurs communes, par les ambitions communes. Ben oui, c'est grâce à ces rencontres-là entre notre service communication et Malakoff Humaniste qu'on a pu mettre en place ce projet. Alors, concrètement, comment ça s'est déroulé? J'ai ce projet-là pour lequel je cherche désespérément les financements depuis plusieurs années. J'en parle à ma hiérarchie et aussi au service communication qui en fait part à la Fondation Malakoff Humaniste qui après nous demande de leur présenter notre projet. On leur présente d'abord par écrit avec tous les détails de tout ce qu'on sait hein, dans le pilotage du projet, c'est quoi le projet, vous comptez le faire comment, de combien avez-vous besoin, vous comptez le faire à quelle échéance, quels sont les indicateurs pour l'évaluer, il a quoi comme impact sur les bénéficiaires, les résidents et les salariés. Une fois qu'il est écrit est présenté chez eux, ils ont leur process de validation qu'ils suivent. Ils le font voir, valider en interne et chez eux par tous leurs interlocuteurs, en conseil d'administration et autres. Une fois que dans leur process, il y a aussi le fait qu'on doit leur présenter oralement ce projet. Alors c'est du coup un résumé parce que l'écrit détaillé a été lu par tout le monde. On leur présente le résumé de notre projet et après on attend la réponse. Et ben il se trouve que à chaque étape de la construction de ce projet là, on a gravi étape par étape en ayant à chaque fois des petites victoires et des validations jusqu'à l'étape finale où on sait que ce projet va être financé. Comparé au temps que j'ai mis dans la gestation du projet et le temps qu'on a mis à leur présenter, finalement, ça n'a pas été long. Le plus long a été de sortir le projet, l'écrit et de le renvoyer. Une fois que le projet leur a envoyé, alors si je me rappelle bien, on a dû envoyer ce projet en septembre 2023 et en décembre, on avait la réponse. Donc, ça n'a pas été long. Alors que c'était un projet, en fait, que j'avais depuis au moins 3-4 ans dans mon ordinateur. Alors, le projet est tout récent, hein, comme je le disais tout à l'heure. On a eu l'accord des financements en décembre, sachant que il y a toute une partie de remise ou de mise aux normes des espaces, notamment l'espace atelier qu'on va mettre aux normes, tout l'espace fitness extérieur, les escaliers qui vont aux ruches, l'espace du jardin des senteurs, tout cela, tous les travaux qu'on va faire, là ça démarre ce mois-ci. Avec ça, il faut que je l'annonce avec l'échéance à venir où on prévoit de faire là on s'inscrit totalement dans l'air du temps parce qu'on va faire ce que nous appelons des Olympiades. La première édition de nos Olympiades va se tenir à partir du lundi de Pentecôte qui est le 21 mai. Et c'est notre première échéance. Donc, d'ici au 21 mai, on est plutôt dans la période de préparation, de travaux, de validation de devis, d'achat de matériel. Et à partir du 21 mai, ça démarre concrètement le projet. Et là, on va inviter nos mécènes à venir. On va inviter les autres résidents de la fondation, les salariés de la fondation. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut se dire que mais le foyer Les Robinson, le CAJ Les Robinson, c'est une paire de sports. Donc on a pas mal de sportifs entre guillemets, bien sûr, de sportifs sur l'établissement, sur le foyer, sur le CAJ. On a beaucoup d'éducateurs qui s'intéressent à l'activité physique. On a deux éducatrices qui n'arrêtent pas d'accompagner les personnes pour aller faire la course ou la marche. D'ailleurs, pas que deux éducatrices. Là, maintenant, en y réfléchissant, c'est pas que deux. Je vois cinq éducatrices. On a un éducateur sportif, pareil, qui accompagne un peu partout les résidents, que ce soit pour aller voir les matchs, que ce soit pour aller faire les matchs, que ce soit pour aller s'essayer au projet dont je parlais tout à l'heure avec le Racing 92. Aller s'essayer au rugby et monter un club de rugby pour les personnes en situation de handicap. Donc, on est une terre de sport. Ce qui fait que quand j'ai parlé de monter ce projet Parcours Sport Santé, ben, je ne me suis jamais sentie seule, mais parce que ça parle à tout le monde, y compris aux professionnels qui ne pratiquent pas le sport. Même à eux, ça leur parle. Et le fait de pouvoir amener des installations intéressante sur l'établissement, mais c'est quelque chose qui a pris tout de suite. Et dans ce projet aussi, on a été accompagné, soutenu par, comme je disais tout à l'heure, par le service COM de la Fondation, mais aussi par la médecin, la directrice médicale de la Fondation. Oui, c'est un projet, je ne porte pas seul ce projet, et heureusement. On a eu à poser des questions à certains résidents sur ce qu'ils aimeraient comme équipement. C'est un projet qui a été parlé dans un CVS avec les familles. C'est un projet où, en tout cas pour assurer sa réussite, j'ai eu envie d'en parler depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui, sa mise en œuvre, d'en parler régulièrement aux personnes concernées, aux personnes qui vont l'utiliser. Et les personnes qui vont l'utiliser, c'est les résidents, c'est les salariés. Le fait de solliciter, d'être dans la démarche de solliciter un mécène, ben c'est une démarche qui est hyper intéressante si on veut sortir un peu des sentiers battus, si on veut sortir ce qui est classiquement financé par nos financeurs, nos tutelles. Si on est un établissement sanitaire, on est financé par l'ARS, un établissement comme le nôtre, un établissement non médicalisé, on est financé par le conseil départemental. Si on veut mettre en place un projet qui nous tient à cœur, mais qui ne va pas trouver son financement dans le financement classique, clairement, faire appel aux mécènes, c'est la bonne option. D'abord, ça suppose qu'on croit en ce projet, parce que si on ne croit pas à son projet, on ne pourra pas le défendre, clairement. Il faut avoir foi dans son projet, avoir foi dans sa réussite, avoir foi dans sa pertinence et dans son intérêt sur le terrain, pourquoi on tient absolument à ce que ce projet voit le jour et aller solliciter un mécène. Clairement, ça nous permet d'être innovant, ça nous permet d'aller au-delà de ce qui nous est de ce qui nous est demandé, et ça amène un vrai plus dans notre accompagnement, ça amène un vrai plus dans notre pilotage d'établissement, ça amène un vrai plus dans notre management de l'établissement et des personnes qui nous sont confiées. Moi, je conseillerais vraiment à mes collègues, s'ils ont des projets pour lesquels ils pensent qu'ils ne peuvent pas les réaliser avec les seuls financements de l'État ou ou des conseils départementaux, oui, de se rapprocher de la com et puis de voir dans quelle mesure ces projets peuvent voir le jour avec des financements autres. C'est clairement, ça nous permet, comme on dit de manière assez familière, ça nous permet de mettre le beurre dans les épinards. Je profite de cette occasion pour remercier nos mécènes. Dans nos mécènes, je parle de la Fondation Humanis, Malakoff Humanis, mais aussi les particuliers qui se reconnaîtront, qui ont accepté de prendre activement part à notre axe prévention sport-santé. En nous soutenant financièrement, ils ont permis de rendre possible la réalisation de ce projet et dans les conditions les plus optimales. Merci, merci, merci.
Eh bien, on remercie Sabine et Béatrice d'avoir pris de leur temps pour nous expliquer le financement de leur projet sur leurs deux établissements. On a parlé de finances, Sandra. Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a d'autres moyens sur lesquels on peut venir en aide à la Fondation ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous aider ?
Alors, il y a encore deux axes, je dirais. Le premier axe que je souhaiterais développer, c'est n'hésitez pas à faire appel à nos ESAT, aux prestations de nos ESAT. Donc ça, c'est une première chose. On a des ESAT qui font de la restauration, des espaces verts, etc. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers nos ESAT et même les ESAT de manière générale pour leur permettre de développer, on va dire, leur activité. Et puis, la dernière chose, c'est devenir une entreprise employeur. HANPLOYEUR. Devenir une entreprise employeur, c'est quoi ? C'est pouvoir ouvrir à l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est pouvoir permettre aussi, une fois qu'on a ouvert cela, de permettre le maintien en poste de ces personnes. Et là, je dirais que c'est un maillage avec la plateforme Insertion et Emploi. Vous avez entendu Sabine Lucot parler tout à l'heure. Sabine, elle dirige la PIH, plateforme Insertion et Emploi, et elle accompagne des personnes vers le milieu ordinaire. Et accompagner vers le milieu ordinaire, ça veut dire accompagner vers l'entreprise lambda, on va dire. Et pour cela, mais il y a besoin effectivement d'avoir des entreprises qui ouvrent les portes et qui ont envie d'avancer sur cette thématique. Et le premier pas qu'on propose, nous, pour faire un pont entre les personnes en situation de handicap et les entreprises, c'est de participer, bien sûr, au Duo Day, qui a lieu une fois par an et qui n'est pas du tout propre à la Fondation, mais nous, on y participe activement, avec chaque année quasiment une centaine de duos, mais de participer au Duo 2. Duo 2, c'est le match retour du Duo Day qu'on organise dans nos 8 ESAT. Et ça permet effectivement aux salariés de l'entreprise de pouvoir passer une journée en binôme avec un travailleur en ESAT. Et ce sont des projets très riches. Là, je peux vous dire que le changement de regard s'opère réellement. Et c'est parfois la première marche pour travailler ensemble. La deuxième marche pour travailler ensemble, c'est après, effectivement, dès lors qu'on peut proposer, par exemple, des stages, des stages d'observation ou même parfois des CDD aux personnes qu'on accompagne, avec bien sûr le maillage de la plateforme Insertion et Emploi qui permet l'adaptation au poste de travail et également le maintien sur le poste. Ça permet de montrer qu'on peut travailler ensemble et que l'inclusion et l'insertion ne sont pas que des mots, mais peuvent vraiment devenir une réalité. Donc voilà. Par rapport à, tu vois, à tout ce qu'on s'est dit, oui, on a besoin de dons du grand public. Oui, on a besoin de mécénat parce que ce sont les deux axes qui vont financer nos projets. On a besoin de taxes d'apprentissage pour financer nos actions de formation supplémentaires pour nos ESAT et nos IME. Mais on a également besoin de tisser, de mailler avec l'entreprise de manière plus générale pour avancer sur l'insertion, sur l'inclusion réelle. Et tout ça... nous permet à différents degrés d'investissement de pouvoir vraiment avancer sur la cause du handicap. On le disait au départ, l'affaire de chacun, l'affaire de tous, on peut tous soutenir la cause du handicap à différents niveaux et de manière finalement assez simple.
Merci Sandra pour toutes ces explications. Moi, je retiens aussi une chose de cette série de podcasts. Alors, elle n'est pas encore terminée. On a encore peut-être au moins 2 épisodes à tourner. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, votre métier, l'accompagnement, l'hébergement de personnes en situation de handicap, c'est très multimodal, en fait. C'est pas juste les prendre en charge dans un établissement. Ça va bien au-delà. Et tout ce que tu nous racontes, cette semaine, au travers ces épisodes, ça nous montre un peu, ça nous permet de découvrir tout le travail que vous, les professionnels du social, du médico-social, faites auprès de ces personnes en situation de handicap.
C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis effectivement, ça illustre bien que ce n'est pas juste d'accompagner dans un établissement ou dans un service. Je vais te donner un exemple assez parlant. Tu vois, on a des éducateurs sportifs dans certains de nos établissements. Et tu pourrais dire, un éducateur sportif, il est là pour leur faire du sport tous les jours. On pourrait considérer que c'est son job. Mais chez nous, un éducateur sportif, c'est au-delà de ça. C'est quelqu'un qui va étudier avec chacun ses besoins et son projet personnel. Et si certains ont des projets, par exemple, de courir des courses locales, de faire telle ou telle performance ou de pouvoir se mettre à tel ou tel sport, ils vont accompagner chaque résident dans son projet personnel. Et c'est là où on va au-delà juste d'être éduc sportif, c'est qu'on challenge en fait, on challenge chaque résident sur ce qu'il veut faire de sa vie. On parlait la dernière fois d'autodétermination. Tous les professionnels de la Fondation sont également là pour permettre l'autodétermination, c'est-à-dire cette capacité à choisir pour sa vie pour chacune des personnes qu'on accompagne.
Je crois qu'on ne pouvait pas trouver un mot de la fin plus parfait que celui-là. Encore merci Sandra. On en a terminé avec ce 3e épisode de notre podcaston 2024. Encore une fois, j'espère que vous aurez pu en découvrir davantage encore aujourd'hui sur les enjeux du handicap. Je vous invite encore à visiter le site du podcaston, www.podcaston.org. Aujourd'hui, on parle de la Fondation des Amis de l'Atelier, mais il y a des centaines d'associations qui participent avec d'autres podcasts au Podcaston. Donc, vous pouvez aller les découvrir sur podcaston.org. Et puis, je le répète aussi, mais si vous en avez la possibilité et l'envie, ce sera l'occasion, en visitant le site du Podcaston, de faire, pourquoi pas, une promesse de don pour la Fondation des Amis de l'Atelier. Ça se passe là aussi très facilement sur www.podcaston.org. On compte sur vous. Mille merci de nous avoir écoutés et d'être restés jusque-là. Je vous dis à demain dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité. Et surtout, prenez soin de vous.